Ce matin, Ecclésiaste, chapitre 6, versets 1 à 12, à la gloire de notre Dieu. Je prêcherai particulièrement sur les versets 1 à 9, à la gloire de notre Dieu. Mais dans la conclusion partielle, les versets 10, 11, 12 seront considérés, bien évidemment, sauf qu'ils ne feront pas l'objet de commentaires ou bien d'exégèse au cours de la prédication. Mais ces versets-là, 10, 11, 12, participeront à l'application finale, eh bien, du sermon ce matin, frères et sœurs. Ecclésiaste, chapitre 6, versets 1 à 12. Et je lis pour vous. Oh, vous pouvez suivre, vous pouvez lire avec moi également, avec votre micro fermé, à la gloire de notre Dieu. Il est un mal que j'ai vu sous le soleil et qui est fréquent parmi les hommes. Verset 2. Il y a tel homme à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger qui en jouira. C'est là une vanité et un mal grave. Verset 3. L'Ecclésiaste chapitre 6. Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton est plus heureux que lui. Verset 4. Car il est venu en vain, il s'en va dans les ténèbres et son nom reste couvert de ténèbres. Il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, il a plus de repos que cet homme. Verset 6, Ecclésiaste chapitre 6. Et quand celui-ci vivrait deux fois mille ans, sans jouir du bonheur, notez le mot bonheur encore une fois, sans jouir du bonheur, tout ne va-t-il pas dans un même lieu? Verset 7. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant ses désirs ne sont jamais satisfaits. Notez le mot satisfait. Verset 8. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? Verset 9. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Verset 6. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut contester avec un plus fort que lui. Verset 11. S'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vanité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Et finalement, le verset 12. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie? Pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre, et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Poser la question, c'est y répondre. Frères et sœurs, il n'y a que Dieu qui peut le dire. Dès le Seigneur, dans son amour incommensurable, bénir et sanctifier la lecture de sa sainte et agréable parole pour la plus parfaite édification commune des âmes de toute la congrégation de l'oratoire, ainsi que les amis visiteurs réguliers et occasionnel à la gloire de notre Dieu. Frères et sœurs, mes bien-aimés, j'ai commencé à vous entretenir depuis un certain temps déjà sur cette thématique générale, globale, qui s'intitule « Notre meilleure assurance dans la vie comme dans la mort ». Cette thématique nous a permis de regarder c'est beaucoup d'autres passages des Écritures avant de continuer justement la thématique en commençant avec le livre poétique de l'Ecclésiaste du roi Salomon. Nous avons déjà étudié le chapitre 1er, 2, 3, 4 et le chapitre 5. Nous sommes rendus aujourd'hui par la grâce du Seigneur au chapitre 6 de l'Ecclésiaste, frères et sœurs. Je l'ai effleuré dans la conclusion partielle du sermon de deux dimanches de cela. J'ai effleuré les trois premiers versets de l'Ecclésiaste, mais c'est aujourd'hui que le Seigneur va nous faire la grâce d'élaborer sur l'ensemble du chapitre 6, frères et sœurs. Nous allons continuer à traiter de ce sujet pour vous aujourd'hui qui dit, dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Nous avons environ 6 sermons sur ce sujet relevant de la thématique générale. Nous allons aujourd'hui continuer et à parler de ce sujet. Dans un monde où tout est vanité, Jésus est notre meilleure assurance. Frères et sœurs, vous l'aurez remarqué sans doute dans vos études bibliques personnelles ou autres. Le livre de l'Ecclésiaste est divisé schématiquement, techniquement, en deux grandes sections, en deux grands blocs, ou bien en deux grandes parties. La première section, ou bien le premier bloc, la première partie, si vous voulez, contient 111 versets, allant du chapitre 1, verset 1, au chapitre 6, le verset 9. La deuxième partie, ou bien le deuxième bloc, la deuxième section du livre, compte également 111 versets. Ce n'est pas par hasard, frères et sœurs, il y a une raison à cela. Nous n'aurons pas le temps de nous étendre sur cette raison-là, mais il y a une raison que dans la première partie, il y a 111 versets, et dans la deuxième, il y a également 111 versets. La première partie du livre décrit la condition humaine, nous l'avons vu ensemble, oratoire, caractérisée par la vanité et rien que la vanité sous le soleil. La deuxième partie du livre, quant à elle, frères et sœurs, propose des conseils de sagesse pour apprendre à l'homme à vivre la vie telle qu'elle se manifeste, telle qu'elle se présente, telle qu'elle s'impose à nous sous le soleil. Au chapitre 6, versets 1 à 9, frères et sœurs, les commentateurs sont unanimes à l'effet que l'auteur atteint un sommet, voire un point culminant et son apogée dans la présentation, dans l'analyse, dans l'observation, eh bien, qu'il nous fait des principaux aspects de la vie sous le soleil. Ainsi, mes bien-aimés, dans cette récapitulation que fait le roi Salomon de l'investigation qu'il a menée sur la vie sous le soleil, dans cette récapitulation qu'il nous présente dans la première partie de son livre, eh bien, il nous apprend aujourd'hui au verset 1 à 6, puisque le chapitre 6, verset 1 à 8, et par extension verset 9, constitue cette récapitulation, ce résumé, cette reprise, eh bien, qu'un homme peut avoir, ouvrez bien les oreilles, qu'un homme peut avoir, ou bien une femme peut avoir les meilleurs avantages ou les meilleures possibilités au monde sans être heureux pour autant. L'Ecclésiaste nous apprend qu'un homme ou une femme peut avoir au verset 1 à 6 du chapitre 6, le mérite pour autant expérimenter le bonheur, sans pour autant goûter au bonheur. Pour illustrer cette situation, frères et sœurs, mes bien-aimés, le roi Salomon prend plusieurs exemples. Le qui se trouve vers cette danse, nous l'avons vu ensemble et au cours de la lecture, met en évidence le cas d'un homme qui possède la richesse et la gloire, mais qui n'a pas la capacité d'en jouir. L'Ecclésiaste dit au verset 2, « Il y a un tel homme, suivez avec moi, à qui Dieu a donné des richesses, des biens et de la gloire, et qui ne manque pour son âme de rien de ce qu'il désire, mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir. » Notez cela, « Mais que Dieu ne laisse pas maître d'en jouir, car c'est un étranger de dire, c'est là une vanité et un mal grave. » Remarquez bien, frères et sœurs, mes bien-aimés, Dieu a donné à un homme des richesses, des biens et de la gloire. Cet homme ne manque pas pour son âme de rien de ce qu'il désire. Mais hélas, Dieu ne laisse pas un tel homme mettre un étranger qui en jouira. C'est là, dit l'Ecclésiaste, dit Coëlette, une vanité et un mal grave. Avoir, frères et sœurs, sans pouvoir en profiter, constitue à la fois un autre aspect de la vanité de la vie sous le soleil. Il nous a été déjà donné de regarder plusieurs aspects de la vanité de la vie sous le soleil, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 5. Mais ici, frères et sœurs, nous avons de nouvelles révélations sur certains aspects de la vanité et de la vie sous le soleil, frères et sœurs, que nous n'avons pas encore vu, que nous n'avons pas encore considéré. Sous le soleil, il y en a qui ont des biens et qui ont la possibilité d'en jouir. Cependant, sous le même soleil, c'est-à-dire dans le monde d'ici-bas, il y en a d'autres qui ont des biens, mais qui n'ont pas la possibilité d'en jouir, frères et sœurs. Dans la théologie de l'Ecclésiaste, frères et sœurs, ces deux situations sont attribuables à Dieu. Mais attention, ce n'est là qu'une façon de parler. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Et le Coëlette est censé le savoir pertinemment bien, frères et sœurs. Ainsi, quand le prédicateur dit que c'est Dieu qui ne laisse pas tel homme maître de jouir de sa richesse et de sa gloire, le prédicateur n'est pas en train de dire que Dieu fait mal les choses ou que Dieu est l'auteur du mal. Loin de là, Salomon fait plutôt référence ici à la souveraineté de Dieu qui permet, pour des raisons que lui seul connaît, que certaines situations indésirables, malencontreuses, comme le fait d'avoir des avantages, des biens et de la gloire, et de ne pas pouvoir en jouir, arrivent à certaines personnes et qu'elles n'arrivent pas à d'autres personnes, frères et sœurs. Mais Dieu n'a rien suscité comme Dieu bon, juste, frères et sœurs. Cela dit, mes bien-aimés, le Coëlette, vous l'aurez remarqué, ne précise pas les raisons qui peuvent empêcher à certains de jouir des atouts qu'ils ont, comme la richesse et de la gloire. Mais une lecture attentive des passages précédents nous autorise à croire, à penser à certaines choses parmi tant d'autres. Pensons par exemple, mes bien-aimés, à des problèmes de santé que telle ou telle personne et peuvent avoir comme atout, mais qui les empêche de jouir les atouts que Dieu, à des problèmes de santé que tel ou tel homme peut éprouver, qui l'empêche de jouir des atouts que Dieu lui a accordés. Pensons aussi aux restrictions d'ordre sécuritaire imposées à certaines personnes qui ont certains types d'atouts, frères et sœurs, mais qui ne peuvent pas en jouir. Pose des restrictions également pour certaines personnes, de lourdes responsabilités qui engendrent des soucis et des tracas susceptibles également de les empêcher de jouir de leurs privilèges, frères et sœurs. Pensons peut-être à la mort, surtout quand la mort est précoce. Pensons aux jalousies, aux conflits entre rivaux. Pensons aux polémiques et aux ennemis qui menacent souvent les gens qui ont certains atouts, certains avantages. Ce sont, frères et sœurs, autant de manières possibles, imaginables, dont on peut expliquer le fait que certaines personnes possèdent des atouts dont elles ne peuvent pas jouir. Mais peu importe la raison pour laquelle, ou bien les raisons pour lesquelles certaines personnes possèdent des biens et qu'elles ne peuvent pas en jouir, peu importe la raison, un fait demeure certain sous la plume de l'Ecclésiaste, guidé par le Saint-Esprit de Dieu dans la rédaction de ses pensées. Un fait demeure certain, à savoir que la richesse et la gloire ont des limites quant à la satisfaction absolue de l'être humain sur cette terre d'iniquité, de péché, frères et sœurs, comme j'ai eu à le souligner maintes fois dans mes prédications antérieures de la série Frères et Sœurs, la richesse, la gloire et la satisfaction, les atouts de ce monde ont leurs limites quant à la satisfaction de l'être humain. La deuxième illustration faite par l'Ecclésiaste de la vanité de la vie sous le soleil, frères et sœurs, met en évidence l'exemple d'un homme qui a beaucoup d'enfants et une longue vie, mais qui est privé de bonheur. L'Ecclésiaste dit au verset 3, « Quand un homme aurait 100 fils, vivrait un grand nombre d'années, et que les jours de ses années se multiplieraient, si son âme ne s'est point rassasiée de bonheur, et si de plus il n'a point de sépulture, je dis qu'un avorton, c'est-à-dire un enfant mort-né, est plus heureux que lui. » Dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, avoir une longue vie et beaucoup d'enfants faisait partie des bénédictions de Dieu les plus recherchées par les hommes. Dans le psaume 127, le verset 3 à 5, nous lisons « Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel, le fruit des entrailles est une récompense. » Comme les flèches dans la main de guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois, ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Dans Proverbes chapitre 3, le verset 2 et le verset 16, eh bien, il est écrit, « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Au verset 2, c'est le verset 2 qui m'intéresse. Au verset 2, « Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. » C'est une bénédiction en récompense à une vie réglée. Au verset 16, il est écrit, « Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. » En parlant de l'homme qui a trouvé la sagesse. Pourtant, frères et sœurs, dans la pensée de l'Ecclésiaste, malgré la longévité et une progéniture nombreuse et une postérité nombreuse, l'homme peut passer toute sa vie sous le soleil sans avoir goûté au bonheur et à la satisfaction véritable. L'Ecclésiaste dit qu'il vaudrait mieux pour tel homme de ne pas être né du tout quand il dit que la situation d'un avorton, c'est-à-dire d'un enfant mort-né, est plus avantageuse que la situation de tel homme. L'Ecclésiaste nous explique l'avantage de l'avorton sur cet homme qui a une longue vie et beaucoup d'enfants, mais qui est tout de même malheureux de la façon suivante. L'Ecclésiaste dit que de l'avorton, de l'enfant mort-né, qu'il n'a point vu, il n'a point connu le soleil, c'est-à-dire il n'a pas fait l'expérience de la vanité sous aucune forme sous le soleil, comme c'est le cas de tout homme, et plus particulièrement de cet homme, eh bien, qui a une longue vie et beaucoup d'enfants. Ainsi, l'Ecclésiaste conclut que l'avorton a plus de repos, c'est-à-dire plus d'avantages que cet homme. C'est la raison pour laquelle l'Ecclésiaste, eh bien, nous dit que cet homme, l'avorton, est mieux que lui. La situation de l'avorton est meilleure que lui, frères et sœurs. Et l'Ecclésiaste nous dit, toujours parlant du même homme, il fait une sorte d'hyperbole. Il dit au verset 6, « Et quand celui-ci, c'est-à-dire le même homme, vivrait 2 fois 1000 ans, c'est-à-dire 2000 ans, soit plus du double de la durée de la vie de Mathusalem, qui est la durée de vie, l'homme qui a la durée de vie humaine la plus longue, sans jouir du bonheur, eh bien, l'Ecclésiaste se demande, tout ne va-t-il pas dans le même lieu, c'est-à-dire dans la tombe. Celui qui vit longtemps meurt, et celui qui ne vit pas longtemps meurt, alors ça donne à rien de vivre longtemps si on n'a pas goûté au véritable bonheur. Une autre illustration de la vanité de la vie sous le soleil que nous trouvons au chapitre 6 de l'Ecclésiaste que nous venons de lire ensemble, frères et sœurs, c'est que la vie laisse les hommes insatisfaits. Je répète, la vie laisse les hommes insatisfaits. Versets 7 à 8. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche, et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits, frères et sœurs. Par quel avantage le sage a-t-il sur les sensés? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vivants? En d'autres termes, frères et sœurs, la vie n'apporte pas de véritable satisfaction ou de satisfaction pleine et profonde à l'être humain. Nous désirons manger, vous et moi. Nous désirons profiter des plaisirs de la vie, vous et moi. Nous désirons posséder davantage. Nous désirons faire un certain nombre d'activités. C'est tout à fait légitime, frères et sœurs. Mais le Qohélète nous avertit ici, comme ailleurs dans le livre, que seul Dieu peut nous satisfaire pleinement, véritablement et profondément, frères et sœurs. Voilà pourquoi l'auteur du psaume 37, le verset 4, que le frère nous dit, vient de nous lire tout à l'heure, dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Il est courant, frères et sœurs, d'appliquer ce verset à la prière. C'est tout à fait correct. Mais je crois que ce verset s'applique tout aussi bien, sinon davantage, à la relation à Dieu versus le bonheur et la satisfaction profonde, frères et sœurs. Dans cette perspective l'oratoire, l'auteur du psaume dit que si nous prenons plaisir à Dieu, en Dieu, Dieu mettra les désirs qu'il veut que nous ayons dans nos cœurs. Autrement dit, quand on cherche Dieu et son royaume, premièrement, plutôt que de rechercher la richesse, les plaisirs, les enfants et une longue vie premièrement, c'est alors que Dieu mettra dans nos cœurs le genre de désirs qui permettront à notre âme d'être satisfaite, frères et sœurs. Dans la foulée, Dieu nous empêchera de poursuivre le genre de désirs qui ne peuvent jamais être satisfaits et qui, au contraire, mènent constamment à des désirs encore plus grands et toujours insatisfaits, frères et sœurs. Le prédicateur nous a déjà dit que la sagesse ne garantit pas la satisfaction profonde de l'homme. J'ai élaboré là-dessus un certain temps au cours d'une de mes prédications, vous vous en rappelez sans doute. Ici, au verset 8, il se demande « Quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé ?» C'est une façon pour l'Ecclésiaste de nous redire ce qu'il a déjà dit auparavant, à savoir que la sagesse ne peut pas soustraire l'homme de la vanité de la vie, car même si nous possédons un niveau de sagesse, nous mourrons comme l'insensé mourra lui-même. À remarquer que l'Ecclésiaste, encore une fois, je l'avais dit une fois dans mes prédications, l'Ecclésiaste n'est pas en train de dire que la sagesse est inutile. La sagesse ne sert à rien dans cette vie, ni même dans la perspective de l'éternité, loin de là. L'Ecclésiaste est plutôt en train de dire que l'insensé n'échappe pas à la vanité de la vie sous le soleil. C'est-à-dire que tous les deux, l'insensé et le sage, font l'expérience de la vanité, frères et sœurs. Salomon dit au verset 7 que l'homme mange, mais que son appétit n'est jamais comblé. Que l'homme mange, mais que son appétit n'est jamais satisfait. Il a déjà dit précédemment, plus on voit, vous vous en rappelez sans doute, plus on voit, plus on veut voir, plus on entend, plus on veut entendre, plus on a, plus on veut avoir. Ainsi, mes bien-aimés, l'aspiration profonde de l'homme au bonheur n'est jamais comblée sous le soleil. Toutefois, peuple du Seigneur et chers amis, frères et sœurs de l'oratoire, amis visiteurs, chers amis internautes, malgré ces observations pertinentes au sujet de la vanité de la vie sous le soleil, Salomon ne nous abandonne pas à nous-mêmes. Il nous donne un élément de solution pouvant nous aider à assumer la vanité de la vie, frères et sœurs. J'imagine que vous vous demandez quelle est cette solution. Mais dans mes prédications précédentes, je vous ai déjà présenté plusieurs solutions à la vanité de la vie sous le soleil. Je vous ai déjà présenté plusieurs stratégies, plusieurs manières, non pas de contourner la vanité de la vie sous le soleil, mais plutôt de l'assumer, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous trouvons un autre élément dans le texte que nous venons de lire, c'est-à-dire au verset 6. Au verset 9, l'Ecclésiaste nous propose, il va faire cela dans tout le reste du livre, du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, il ne fera que proposer des solutions valables, pertinentes, efficaces, divines et spirituelles à la vanité de la vie. Et ici, au verset 9 du chapitre 6, il annonce les couleurs en nous montrant que la solution ou alors un élément de solution pour assumer la vanité de la vie, eh bien, consiste à apprécier, notez cela, prenez un crayon, à apprécier ce que l'on a. Je répète, un élément de solution nous permettant d'assumer la vanité de la vie sous le soleil consiste à apprécier ce que l'on a. Ça consiste également à se contenter de ce que l'on a. Cela consiste également à s'appuyer sur Dieu. Verset 9. Ce que les yeux, verset 9a, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Je répète, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. Deux points. L'Ecclésiaste dit, c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Je suis des interprètes qui croient que c'est encore là une vanité et la poursuite du vent ne s'applique pas à ce que l'Ecclésiaste dit au verset 9a, mais plutôt ça s'applique à tout ce qu'il a dit dans les versets précédents, c'est-à-dire les versets 1 à 8, et plus largement dans tout ce qu'il a dit dans toute la première partie du livre, frères et sœurs. Autrement dit, le verset 9a représente une solution ou alors un élément de solution pour assumer la vanité de la vie. Mais t'as rien, mais qu'on songe, j'aimerais ça que vous vous rappeliez toute votre vie de ce verset. Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des yeux. L'équivalent néo-testamentaire, c'est-à-dire du Nouveau Testament, du verset 9a de l'Ecclésiaste, et Philippiens 4, le verset 4, où Paul nous dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, frères et sœurs. » Quand le prédicateur nous dit au verset 9a du chapitre 6 de l'Ecclésiaste « Ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs », ce qu'il nous dit en réalité, frères et sœurs, est ceci. N'attendons pas demain pour être heureux quand nous pouvons être heureux aujourd'hui, d'autant que nous ne connaissons pas l'avenir. Je répète, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs signifie n'attendons pas demain pour être heureux quand nous pouvons être heureux aujourd'hui, d'autant que nous ne connaissons pas l'avenir. Nous ne savons pas de quoi demain sera fait, car nous n'avons aucun pouvoir sur le lendemain. Ne soyons alors pas déçus, attristés, malheureux, ni frustrés pour ce que nous n'avons pas et que nous désirons avoir. Soyons au contraire, mes bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, dit l'auteur, soyons plutôt contents de ce que nous avons en attendant que ce que nous désirons arrive si Dieu le veut. Autrement dit, nous dit l'Ecclésiaste, mieux vaut ce que l'on a que ce que l'on désire. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Quand on n'a pas ce que l'on veut, il faut demander à Dieu de nous faire la grâce de nous contenter de ce que nous avons. Dans la vie, frères et sœurs, on peut avoir des manques, on peut avoir des aspirations profondes qui sont tout à fait légitimes, mais qui ne sont pas comblées. Tout cela rend la vie plus vaine, plus futile, plus inutile, plus décevante et plus dérisoire que la vie l'est déjà sous le soleil. Nous comprenons bien cela, mes bien-aimés. Cependant, nous pouvons être contents dans le Seigneur et par sa grâce, nous dit l'Ecclésiaste au verset 9a. Pour ce faire, il nous faut juste comprendre que le bonheur parfait n'est pas de ce monde, l'absolu n'est pas de ce monde, l'idéal parfait n'est pas de ce monde. Aussi, mes bien-aimés, ne devons-nous pas nous attendre à l'absolu, à la perfection, à l'idéal pour être heureux dans la vie, pour être content dans la vie, sœur. Il suffit simplement savoir apprécier ce que l'on a, malgré le fait que nous n'avons pas encore ce que nous désirons, frères et sœurs. C'est ce que l'Ecclésiaste nous dit en affirmant au verset 9a du chapitre 6, ce que les yeux voient est préférable à l'agitation des désirs. L'apôtre Paul a bien compris cela quand il dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, dit l'homme de Dieu, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13, je puis tout, dit Saint Paul, par celui qui me fortifie. Voyez-vous ce que Paul dit, frères et sœurs, au verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Nous ne comprenons pas, là, frères et sœurs, que Paul avait découvert par la grâce de Dieu le secret du contentement. Ce que Paul vivait n'était pas évident. Vous avez une idée de l'histoire de Paul quand il écrivait l'épître de Saint Paul aux Philippiens, frères et sœurs. Paul a été frappé de plein fouet par la vanité de la vie. Alors qu'il prêchait l'évangile, il se retrouvait en prison à cause du nom de Dieu. Et Dieu l'a laissé aller en prison, frères et sœurs. Il n'y a pas plus de vanité que cela. Cela n'a pas de sens, frères et sœurs. Mais Paul s'est appuyé sur la force du Christ pour tenir bon et être content malgré ces circonstances difficiles. La force du Christ qui n'était pas visible par personne en Paul, mais Paul pouvait sentir cette force agissant puissamment dans sa vie. Laissez-moi vous dire ce matin, peuple du Seigneur, chers amis de l'oratoire, que le Christ qui a fortifié Paul est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il est vivant éternellement, frères et sœurs. Il est le même Christ qui peut vous fortifier ce matin au milieu de vos épreuves et de la vanité de la vie. Lorsque nous nous approchons de Dieu dans la prière, frères et sœurs, dans le culte personnel, dans le culte familial et communautaire, Dieu peut nous donner une force spirituelle et mentale pour maximiser la vie qu'il nous a donnée sous le soleil. Et cela, au milieu même de la vanité de la vie, frères et sœurs. Il y a une servante de Dieu qui dit un jour, « Le secret du contentement est le Christ en moi, pas moi, dans des circonstances difficiles. » Le secret du contentement, dit une servante de Dieu, est le Christ en moi, pas moi, dans des circonstances difficiles. Cela nous fait comprendre que nous devons apprendre à compter sur la force du Christ et à nous réjouir tous les jours et ne pas considérer uniquement les moments indésirables, frères et sœurs. Il y avait un conseiller chrétien qui, une fois, s'est assis avec son client qui était très anxieux et jamais heureux, qui est venu le voir. Le conseiller et chrétien a sorti un grand morceau de papier blanc et il a dessiné un point noir à peu près de taille moyenne au milieu de la feuille de papier, frères et sœurs. Et le conseiller de demander à son client, « Que voyez-vous sur la feuille de papier ?» Et le client de répondre, « Je vois un point noir. » Et le conseiller de lui dire, « Je pense que c'est ça votre problème. Il y a plus d'espace blanc sur la feuille de papier que de noir. Pourtant, tout ce que vous réussissez à voir, c'est le point noir. » C'est parfois la même chose dans la vie de certaines personnes, frères et sœurs. Il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de belles choses qui se passent dans leur vie, dans la vie de leur famille. Et évidemment, compte tenu de la vanité de la vie sous le soleil, il y a des choses moins bonnes qui se passent également dans leur vie. Et au lieu de voir les bonnes choses, incluant les bénédictions que Dieu leur donne, eh bien, ces personnes se concentrent nuit et jour sur les choses qui vont moins bien dans leur vie. Le Coëlette nous met en garde contre une telle attitude, frères et sœurs, au verset 9a. Quel est l'espace blanc qui est dans votre vie par-delà les points noirs ce matin? Quelles sont les bonnes choses qu'il y a dans votre vie autour de vous que vous ne voyez pas parce que vous êtes tellement concentré sur les choses qui vont moins bien? C'est le défi que Salomon nous lance ce matin dans le Seigneur pour sa plus grande gloire. Regardez l'espace blanc qui est dans votre vie. Regardons l'espace blanc qui est dans notre vie et maximisons cet espace blanc et soyons heureux de cet espace blanc au-delà même d'un point noir qu'il peut y avoir. Votre mari n'est pas parfait, mais vous avez un mari et il a des qualités à côté de ses défauts. Votre femme n'est pas parfaite, mais elle a des qualités par-delà ses défauts. Votre travail n'est pas parfait, mais Dieu vous donne un travail. Votre revenu est peut-être insuffisant, mais Dieu vous en donne un revenu, frères et sœurs. Votre maison n'est peut-être pas celle que vous avez toujours rêvée, mais vous avez, par la grâce de Dieu, une maison. Vous êtes locataire aujourd'hui, vous désirez avoir une maison. Je comprends parfaitement cela. Mais il y en a qui n'ont pas de toit, mais vous avez un toit. Vous êtes capable d'être locataire. Votre église a peut-être des besoins, votre église a peut-être des limites, votre église a peut-être des problèmes, mais vous avez une église et vous avez la parole prêchée dans votre église. Votre santé n'est pas celle que vous souhaiteriez qu'elle soit, mais Dieu est avec vous, frères et sœurs. Avec Dieu, nous pouvons toujours expérimenter le contentement en toutes circonstances, sans pour autant cacher la réalité de l'insatisfaction qui caractérise la vie d'ici-bas. Quand les circonstances de la vie nous semblent noires et décevantes, nous pouvons nous contenter de ce que nous avons en Dieu. Nous pouvons nous contenter de la vie éternelle. Nous pouvons nous contenter de la présence de Dieu. Nous pouvons nous contenter du don du Saint-Esprit. Nous pouvons nous contenter de la prière. Nous pouvons nous contenter de la parole de Dieu. Nous pouvons nous contenter du soutien de Dieu. Nous pouvons nous contenter du soutien et de la communion des frères et sœurs de la congrégation. Et tout cela en attendant dans la foi et l'espérance ce que Dieu voudra bien changer de nos circonstances difficiles, de nos soucis, de nos tracas, frères et sœurs. L'avenir, l'oratoire peut paraître sombre pour plusieurs d'entre nous ce matin. Il peut y avoir des pressions internes qui pèsent sur nous. Nous luttons constamment avec le péché qui nous enveloppe si facilement dans la vie sous le soleil. Il y a des pressions externes comme la pénurie d'emploi, notre santé qui peut se détériorer, le coût de la vie qui augmente. Mais quand nous nous rappelons que notre Dieu, qui a commencé cette bonne œuvre en nous, la rendra parfaite pour le jour de Christ, nous pouvons prendre courage et être contents au milieu même de la vanité de la vie présente sous le soleil, frères et sœurs. Laissez-moi vous dire l'oratoire, peuple du Seigneur, chers jeunes, chers hommes, chères femmes de l'Église, Dieu est en train de faire de grandes choses dans la vie de chacun de vous. Dieu vous destine à un grand bonheur et Dieu s'est engagé à faire de votre vie un chef-d'œuvre. Avec Dieu, l'avenir est brillant pour chacun de vous. Si le présent vous paraît sombre, Dieu est là, frères et sœurs. Quand nous nous rappelons de cela, nous pouvons être contents dans le Seigneur et par sa grâce. En terminant, je vous dirai ceci. Nous ne pouvons pas sortir de la vanité qui caractérise la vie sous le soleil. Ce qu'il nous faut, c'est de l'assumer. Je répète, nous ne pouvons pas sortir de la vanité de la vie sous le soleil. Ce qu'il nous faut, en attendant que le Seigneur revienne nous chercher, nous soustraire éternellement à cette vanité, c'est de l'assumer. Nous l'assumons comment, pasteur? Nous l'assumons en tenant compte des bonnes choses que Dieu nous a déjà données, en sachant les apprécier à leur juste valeur. Une autre manière d'assumer la vanité de la vie sous le soleil consiste à reconnaître nos limites en tant qu'être humain et les limites de toute chose à nous satisfaire sous le soleil et à dépendre de Dieu par la suite pour notre satisfaction. Une relation avec Dieu, c'est seulement ce qui vous comblera ce matin. Car vous serez rempli de paix, rempli de joie, rempli d'amour, rempli de bénédiction, rempli de pardon dans la relation avec Dieu. Le contentement, frères et sœurs, n'est pas quelque chose que l'homme donne ou que l'homme peut gagner par ses propres moyens. Salomon dit que le contentement est le don de Dieu. Nous recevons le contentement et la satisfaction par la foi. Quand nous croyons que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés et que nous l'acceptons comme notre sauveur personnel. La Bible dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que nous sommes guéris. Les meurtrissures dont le passage inclut les meurtrissures du péché et par le fait même, la guérison des meurtrissures implique la guérison du péché. C'est saint Augustin qui a dit dans ses confessions, nos cœurs sont agités jusqu'à ce qu'ils trouvent leur repos en Dieu. C'est en Jésus seul que nous pouvons expérimenter le contentement. Pour y parvenir, nous devons d'abord nous tourner vers Dieu, puis nous confier à Dieu, continuer à croire que Dieu est bon. Continuer à croire que ce que Dieu nous a donné, c'est ce dont nous avons besoin en ce moment. En attendant que Dieu nous transporte dans son paradis éternel, à l'abri de tout malheur, de toute insatisfaction et de toute espèce de vanité, frères et sœurs. S'il y a une personne qui nous écoute en ce moment, mais qui n'a pas encore fait la paix avec Jésus, qui n'a pas encore rencontré Jésus comme étant son sauveur personnel, qui se demande quoi faire avec cette vie où il y a tout le temps des retournements de situation, il y a tout le temps des tracas, des problèmes, des difficultés, des choses incompréhensibles. S'il y a des questions quant à la bonté, à la générosité de Dieu par rapport à la souffrance, la réponse est dans la parole de Dieu. Nous pouvons vous aider à trouver cette réponse. La réponse est dans la relation avec Dieu. La réponse est dans la relation avec Dieu à travers l'acceptation de la personne et de l'œuvre de Jésus-Christ, son Fils, qui est mort pour nous sur le bois infâme du calvaire, pour justement nous délivrer de la vanité et nous permet de l'assumer en bonne et due forme, frères et sœurs. Chers amis, si c'est cela que vous voulez faire, si vous voulez approfondir ces vérités que vous venez d'entendre à propos de l'évangile de grâce, votre serviteur se fera le plaisir, un plaisir immense de partager avec vous davantage. Il n'en tient qu'à vous de nous faire connaître votre intention et nous pourrons cheminer avec vous dans la grâce de Dieu par sa générosité et par sa main toute puissante. Faites-nous connaître votre besoin et nous saurons vous accompagner selon ce que le Seigneur nous permettra de faire. Quant à vous, frères et sœurs de l'oratoire, je sais que j'ai été un long, mais écoutez bien, Dieu a voulu que vous ayez cette parole aujourd'hui. Dieu est venu vous rappeler à travers l'Ecclésiaste, oui, il y a des problèmes, oui, il y a des tracas, oui, il y a des difficultés, mais il y a aussi des bonnes choses qui se passent. Vous êtes vous, vous ne serez jamais un autre. Dieu veut que vous restiez vous. Il vous bénira, il commandera ses bénédictions de s'étendre sur vous. Mais en attendant des choses que votre cœur désire, regardez autour de vous, regardez en vous, regardez dans votre maison, dans votre ministère. S'il n'y a pas beaucoup de choses positives, de beaucoup de bonnes choses agréables que Dieu vous a déjà accordées, et puis réjouissez-vous de ces choses, apprenez le contentement, vivez dans la joie, dans l'allégresse, sachant que votre Dieu vous a déjà donné tout ce qui est le plus nécessaire, à savoir sa présence, la vie éternelle, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, l'Église. Ainsi soit-il pour nous tous. Amen.